T'as qu'à leur dire Django veut le même cachet que Clark Gable.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits jusqu'à la 13e génération de mon race.
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David.
Bonjour
Stéphane.
Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... Mais oui, pourquoi tu pars ? C'est ce qu'ont fait nos personnages, des Français qui sont partis faire campagne en Espagne. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. A commencer par le capitaine breton Bertrand du Guesclin, devenu chef militaire. Avant d'être le connétable de France et de Castille, il est parti mener pour le pape et le roi Charles V sa bataille la plus meurtrière en Espagne durant la guerre de Cent Ans. Et il n'était pas seul, vous verrez. Puis je vous raconte André Malraux, l'écrivain de La Condition Humaine, qui n'a pas accepté des conditions en Espagne et s'est engagé aux côtés de la gauche républicaine face aux nationalistes de Franco en pleine guerre civile. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc, qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, qui rend non seulement hommage à André Malraux, aux côtés de bien d'autres noms dans un livre qui vient de paraître, Le courage guider leurs pas. Des pas qui l'ont guidé, lui aussi, jusqu'en Espagne, où lui-même a fait campagne.
C'est beau ce que vous dites, Stéphane, et c'est vrai en plus. Une campagne uniquement politique, hein. Il n'y a pas eu de guerre, je rassure sa famille. Je vous raconte l'ancien Premier ministre Manuel Valls parti tenter sa chance en Espagne en briguant la mairie de Barcelone. Bon, spoiler, il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu, mais le point positif, c'est qu'il est en France cet après-midi.
Oui, et donc qu'il sera avec nous dans ce studio dès 17h sur Europe 1 pour évoquer André Malraux, d'autres grands hommes et femmes courageux de l'histoire et écouter votre portrait aussi, Jean-Luc.
Ah, il aurait peut-être été mieux qu'il soit à la mairie de Barcelone finalement. Oui,
vous avez le temps de changer la fin.
Je vais bouger deux trucs.
Ou peut-être dire que finalement il deviendra Premier ministre.
Ou donner la mairie de Barcelone.
N'importe. On va trouver. Alors eux aussi, ils hésitent à partir en Espagne, mais uniquement pour les vacances. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Keltenbach. De quoi nous parlez-vous ?
Eh bien, vous évoquiez à l'instant André Malraux qui est parti en Espagne. Pendant la guerre d'Espagne. Moi, je vais évoquer ceux qui ont quitté l'Espagne et qui, cela, eh bien, les 30 000 enfants espagnols évacués vers d'autres pays pendant les 3 ans que dura la guerre d'Espagne. Et il y a 3 000 de ces enfants qui ont été envoyés en URSS. Alors, déjà, ça a dû leur faire bizarre, mais après, quand la guerre a été terminée et que l'Espagne est devenue franquiste, est-ce que vous croyez que les soviétiques avaient envie de renvoyer les enfants là-bas ? Ça a été toute une histoire.
Elle lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession souvent la sienne, c'est David Castillo-López. De quoi nous parlez-vous ?
De la découverte des dinosaures.
En Espagne ?
Non.
Mais on ne vous a pas informé du thème de l'émission du jour.
Je vais caser quelques
mots sur
l'Espagne.
Vous auriez pu faire les grottes préhistoriques pornographiques, c'est intéressant.
Dites un mot sur
les Espagnols.
Je dites juste les tyrannosaures ou quelque chose.
Les stélanosaures.
Alors les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle
époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au 18e siècle. On parle gastronomie avec vous, Olivier Pouls. Et quoique gastronomie, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot.
Pas vraiment, non. S'il y a bien des gens avec qui je n'aurais pas trop aimé partager mon repas, ce sont les pirates.
Espagnols.
Entre autres. Entre autres, évidemment.
Il essaye de raccorder tous les thèmes.
Mais il se trouve que les pirates se battaient souvent contre les Espagnols.
Oui, voilà. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40. Et puis, mon cher Jean-Luc, vous allez revêtir tout à l'heure votre tenue d'arbitre pour le quiz.
Espagnol, évidemment. Oui, je vais devoir compter les points et ce, en cas de bonne réponse. Inutile de dire que je devrais pas être trop débordé aujourd'hui. Ça sera Born to be Alive et je m'en réjouis d'avance.
Au moins autant que moi. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Il a 17 ans quand démarre l'interminable guerre de 100 ans. capitaine breton aux exploits qui ont traversé les siècles. S'il a combattu pour la France, il est aussi parti faire campagne en Espagne pour le pape et le roi Charles V. Je vous raconte maintenant sur Europe 1 le destin d'un valeureux chevalier devenu deux fois comte, deux fois duc, connétable de France et de Castille et même roi de Grenade, Bertrand du Guesclin. En 1365, le chevalier Bertrand du Guesclin est retenu prisonnier par les Anglais à Niort. Il est entre les mains du prince noir, Édouard de Woodstock, qui règne sur l'Aquitaine au nom de son père, le roi Édouard III d'Angleterre. Le capitaine breton de 45 ans a l'habitude d'être l'otage des Plantagenets. Bien plus tôt déjà, au cœur de la guerre de succession de Bretagne, guerre qui a vu Jeanne de Penthièvre et son époux Charles de Blois, soutenus par la couronne de France, se disputaient la tête du duché avec leur voisin Jean de Montfort, allié au souverain d'Angleterre, du Guesclin avait fait un petit séjour outre-Manche. Il n'était alors qu'au début de sa carrière. Ce conflit n'impliquait pas directement l'Angleterre, mais comme souvent, le pays était de la partie pour défendre ses intérêts en jeu. À savoir des voies maritimes sans danger le long des côtes bretonnes pour rejoindre ses possessions du sud-ouest de la France. Tout le XIVe siècle est ainsi marqué par des affrontements sanglants entre les royaumes de France et d'Angleterre. En 1365, lorsque du Guesclin se trouve de nouveau en captivité, cela fait près de 30 ans que cette guerre, que l'on appellera à terme la guerre de 100 ans, ravage la France presque continuellement. Les trêves sont brèves et l'insécurité est partout. Cette année-là, la population se sent particulièrement en danger, alors même que le pays est officiellement en paix. Le traité de Brétigny a en effet scellé la paix franco-anglaise en 1360. Le roi Charles de Navarre, dit le Mauvais, un cousin et autre ennemi belliqueux du roi de France Charles V, dit le Sage, s'accorde aussi un peu de répit dans sa course à la Normandie. Et voilà que la guerre de succession de Bretagne s'achève à son tour par un traité de paix signé le 12 avril 1365. Mais pourtant, le calme ne revient pas. Faute de guerre, les milliers de combattants européens mis sur la touche menacent désormais le peuple. Depuis que les troupes de Jeanne de Penthièvre et Charles de Blois ont été mises en déroute à Auray le 29 septembre 1364, que Charles de Blois a été tué et le capitaine du Guesclin emprisonné, leurs hommes désœuvrés font ainsi régner la terreur sur les routes. Ils forment ce qu'on appelle les grandes compagnies, des hordes de brigands qui pillent, saccagent, tuent partout où ils passent. Alors, pour éloigner ces soldats sans foi ni loi, Rome, la couronne de France et le Saint-Empire romain germanique et le pape décident de les envoyer en croisade. En croisade en Espagne notamment, pour combattre les Maures de Grenade, ainsi que le roi de Castille Pierre Ier le Cruel, comme il est surnommé, pourtant visiblement trop clément envers les musulmans et les juifs aux yeux du pape. Or, pour mener cette armée de croisés indisciplinés de l'autre côté des Pyrénées, il leur faut un chef de guerre expérimenté. Et qui de plus désigné que l'impétueux Bertrand du Guesclin ? L'affaire est vite conclue. Le prince noir accepte de libérer le breton contre rançon. Il en demande 100 000 florins, soit 155 kilos d'or. Une belle somme pour un chef militaire. Il faut dire que du Guesclin a acquis au fil des ans une réputation redoutable. Du Guesclin n'est pas parti de rien. On peut même dire que le petit garçon, malgré son physique disgracieux qui deviendra légendaire, est plutôt bien né. Son père, Robert du Guesclin, seigneur de la Motte-Bron, est le chef de la branche cadette d'une des plus riches familles féodales de Bretagne. Et sa mère, Jeanne de Malmain, dame de Sens de Bretagne, est également parente de la prestigieuse lignée des Malmain établie en Normandie. Un tel lignage augure de l'avenir de leurs 9 enfants. Dans la famille du Guesclin, tous les fils partent à la guerre. Au cours de ses campagnes, Bertrand du Guesclin se battra souvent aux côtés de ses frères et de ses cousins. Est-ce pour donner le change sur sa laideur qu'il en devient le plus charismatique ? Le courage donne ce que la beauté refuse. Telle est la devise de du Guesclin. En 1337, encore adolescent, il vient à bout d'une quinzaine de chevaliers lors d'un tournoi à Rennes. 20 ans plus tard, devenu seigneur de Sens et de Bron, il défend la ville assiégée par les Anglais. Il s'illustre par tant de bravoure que le dauphin de France et duc de Normandie, qui montera sur le trône sous le nom de Charles V, 7 années plus tard, le nomme capitaine de Pontorson et du Mont-Saint-Michel en décembre 1357. À 37 ans, Du Guesclin est alors chargé de la défense du nord-est de la Bretagne, de la Basse-Normandie et du Maine. Devenu indispensable à sa dame Jeanne de Penthièvre, côté Bretagne, et à Charles de France, côté Normandie, Du Guesclin passe d'un champ de bataille à l'autre. Quand il ne croise pas le fer, il prend le temps de courtiser une femme. Il épouse Tiphaine Ragnel avant de triompher à la bataille de Cocherel le 16 mai 1364, qui lui apporte le comté de Longueville, puis de rendre les armes à celle d'Auray. Je vous le disais, la suite des aventures de Bertrand Du Guesclin se déroule loin de la Bretagne, de l'autre côté des Pyrénées. Libéré par les Anglais sur demande du pape, le chevalier se met en marche avec son armée de routiers, direction l'Espagne, en octobre 1365. Parti de Bourgogne, les compagnies descendent la vallée du Rhône, traversent le Cantal, le Languedoc, jusqu'à Montpellier, puis Carcassonne et Perpignan. En chemin, Du Guesclin gonfle ses rangs et remplit ses poches, prenant soin de réclamer les moyens nécessaires à la papauté d'Avignon et aux autres seigneurs sur son passage. En décembre, lui et ses 10 000 hommes traversent enfin les Pyrénées. À Barcelone, Bertrand Du Guesclin rencontre son allié, le roi d'Aragon. Pierre IV, le cérémonieux, l'accueille avec diplomatie en lui offrant, entre autres, le comté de Borja, proche des frontières de la Castille et de la Navarre. La mission première de Bertrand Du Guesclin est justement de déloger Pierre Ier du trône de Castille pour y asseoir son demi-frère, le bâtard Henri de Trastamare, appuyé par le roi de France. C'est chose faite dès le printemps 1366. Sacré roi à Burgos, Henri II offre aussitôt à Du Guesclin le duché de Trastamare en Galice qu'il va falloir arracher aux partisans de Pierre le Cruel et le royaume de Grenade qu'il ne possédera jamais. Pour combattre en Espagne, Du Guesclin commence par s'allier à un ennemi d'hier, l'anglais Hugh Calverley. Mais les Anglais, justement, ne tardent pas à s'en mêler aussi. Le monarque chassé, Pierre Ier, fait appel à eux pour récupérer sa couronne castillane. Il scelle une alliance avec le prince noir et Charles de Navarre. Le 3 avril 1367, à Nájera, leurs hommes et ceux de Du Guesclin se livrent une bataille sanglante. Les combattants bretons et français sont massacrés par les archers anglais. On compte 400 morts dans leur rang et 2000 prisonniers, parmi lesquels Du Guesclin lui-même. Retour à la case départ. Retour en France. Le chevalier est de nouveau enfermé en Aquitaine, au château de Condat cette fois, près de Libourne. Une fois sa rançon payée, Du Guesclin aide une nouvelle fois Henri de Trastamare à sauver son trône de Castille en 1369. Il ne fait pas tout ça pour rien. Il reçoit notamment en récompense le duché de Molina et le titre de connétable de Castille. Puis il quitte définitivement l'Espagne en juillet 1370 pour revenir au service de Jeanne de Penthièvre et du roi Charles V, qui le fait connétable de France. Son épouse Tiphaine meurt l'année suivante. Du Guesclin se remarie donc en 1374 avec Jeanne de Laval. Pour le reste, la dernière décennie de sa vie est marquée par ses victorieuses embuscades contre des places fortes anglaises. Bertrand Du Guesclin meurt finalement au combat, le 13 juillet 1380, à 60 ans, après avoir repris plusieurs provinces pour le compte du roi de France. Afin d'honorer le chevalier, Charles V fait alors enterrer ses ossements dans la nécropole royale de Saint-Denis, un privilège suprême pour celui que l'on surnomme le dogue noir de Brocéliande.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du dogue noir de Brocéliande, Bertrand Du Guesclin avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien médiéviste qui lui a dédié une passionnante biographie. Bonjour Frédéric Morvan.
Bonjour Stéphane Bern.
Frédéric Morvan, j'ai conclu mon récit sur ce surnom qu'on lui a donné, le dogue noir de Brocéliande. C'est assez curieux, pourquoi ce surnom ?
En fait, ce surnom est très tardif, il date de 1980. Oui, c'est une auteure qui s'appelle Micheline Dupuis qui l'a appelée comme ça. En fait, le biographe du XIVe siècle, Cuvelier, avait écrit qu'il avait le teint noir, Froissart aussi. Froissart l'aimait pas, et il, comme ça, noir, sarrasin, mort. Donc c'était pour le dénigrer. Et en fait, dans le temps, au XIXe siècle, on parle de Brocéliande, c'est-à-dire la forêt magique. Le château de Bron, qui appartient à Du Guesclin, est au nord de Brocéliande. Donc on fait, plus, bon ben, il avait une réputation de tueur en série, Du Guesclin. Donc c'est vraiment un peu un pitbull. Donc résultat, il devient le dogue de Brocéliande.
Vous expliquez en introduction de votre biographie que lorsque Du Guesclin naît en 1320, je vous cite, l'Europe se trouvait en pleine transition. En effet, on sort progressivement de la féodalité. C'est là que débutent les luttes des monarques européens de l'époque pour le pouvoir, évidemment.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce sont toujours jusqu'en 1919, ce sont des luttes entre des monarques pour des territoires, pour des questions dynastiques. Mais arrivé au XIVe siècle, vous avez une transition vers l'État moderne avec des institutions, une économie et une recherche d'unité.
Clémentine.
Sur Du Guesclin lui-même, Stéphane évoquait sa devise à l'instant. Le courage donne ce que la beauté refuse, c'est magnifique. Et vous expliquez que l'enfance de Du Guesclin était très difficile en raison notamment de sa laideur. Quelle est la part de vérité de légende? On dit que sa mère refusait même qu'il mange à la même table que le reste de la famille. Est-ce que vous pensez que ça correspond à une réalité, que c'est vraiment sa laideur supposée qui a forgé son caractère?
En fait, il y a une question de propagande. Quand Du Guesclin meurt, son biographe, Cuvelier, qui est appointé par le roi de France, doit montrer un chevalier, un noble féodal, qui est monté, qui a eu le mérite. Donc il en fait quelqu'un de laid. Peut-être qu'il était laid, hein, vraiment, peut-être. Et il en fait quelqu'un de laid pour montrer à toute la chevalerie que même si on est laid, on peut réussir et le mérite permet d'être le 10e preux. Et si on regarde son cénotaphe à la basilique, je ne trouve pas si laid que ça. Hein. Il a les cheveux bouclés, je trouve qu'il a un regard un peu poupin. Donc voilà, ça. Donc il a l'air un peu sympa, sauf qu'il a une grosse balafre sur l'œil. Donc voilà, ça pose quand même quelques petits problèmes.
L'Espagne, justement, le pape décide d'y envoyer Du Guesclin, que l'on a aussi surnommé le connétable aux mille ruses. Il était considéré comme le plus stratège, le plus efficace des chefs de guerre du royaume. C'était le cas, d'après vous ?
Oui. En fait, il fait changer les choses. C'est-à-dire qu'auparavant, ce sont des batailles rangées de chevaliers qui montent sur leurs chevaux et puis qui attaquent et qui détruisent tout. Là, après la bataille de Poitiers et celle de Crécy, c'est fini, c'est terminé. Il faut de l'efficacité. Mmh. La mort des chevaliers, ça coûte beaucoup trop cher. Et résultat, Du Guesclin, lui, il arrive, il fait des pièges, il fait des choses que les chevaliers ne font pas. C'est-à-dire du corps à corps. Et surtout, il fait mettre à pied ses chevaliers. C'est-à-dire tous les hommes d'armes sont à pied. Et les Anglais vont faire la même chose.
Vous expliquez dans la biographie que vous lui consacrez, les compagnies, ces troupes désœuvrées qui font régner la terreur dans le royaume, ne sont pas insensibles aux sirènes des croisades. Pourtant, on les force à aller au combat dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui les anime dans cette future croisade en Espagne ?
L'aventure, l'argent. Au Moyen-Âge, on les appelait les compagnies d'aventure. Ce sont souvent des jeunes, des très jeunes qui ont fait la guerre et ce sont des écuyers, des jeunes qui apprennent le métier. Et vers 1365, ils étaient du côté de Charles de Blois, de Jeanne de Penthièvre, surtout chez les Bretons, et la guerre n'est plus là. Donc il faut trouver des emplois. On reste ensemble, en compagnie, et donc ils cherchent des emplois. Ils cherchent de l'argent.
L'aventure, l'argent, la gloire, la fortune.
Mais aussi le fait est que si le pape pouvait leur pardonner, que le roi de France pouvait leur pardonner de temps en temps, c'est ce qu'on appelle dans les archives nationales, il y a énormément de lettres de rémission. Le roi exécute quand il se dépasse un peu les bornes, ses soldats, même beaucoup, et de temps en temps, il pardonne.
Du Guesclin et ses troupes participent à ce qu'on appelle la guerre des deux pierres. Et comment expliquez-vous que l'Angleterre aide finalement Pierre Ier à garder son royaume de Castille, alors même qu'à l'époque, les deux royaumes sont soumis à l'autorité du pape, qui lui souhaite son éviction, et qu'ils sont à ce moment-là en paix. On a l'impression que tout ça, ça part dans tous les sens, qu'il y a des inféodations paradoxales, on se bat, puis on est en paix, puis il y a le pape derrière. Enfin, c'est quand même curieux et assez incompréhensible.
En fait, on est toujours dans une période de transition. Le pape croit toujours avoir du pouvoir, alors qu'il n'en a plus. C'est-à-dire que les intérêts des États modernes prennent le dessus. Le pape, il excommunie, il donne des ordres, mais personne ne l'obéit. Par exemple, le prince Édouard de Woodstock, le prince d'Aquitaine et de Galles, eh bien, lui, il a des intérêts. Quand son allié Pierre le Cruel perd la Castille, il perd la moitié de l'Espagne. Ce qui fait que l'allié du roi de France devient roi de Castille, ce qui fait qu'il a perdu une partie de son pouvoir et il est mis en danger par le nouveau roi de Castille, pro-français dans le sud de son territoire.
Mais c'est une complexité, parce qu'en même temps, on a l'impression que Du Guesclin part en croisade. Alors là, le pape ne demande pas mieux, mais enfin, c'est quand même lui qui l'excommunie.
Voilà, il l'excommunie, c'est la deuxième expédition. Là, il est plus croisé. La première expédition, il est croisé. Ouais. La deuxième expédition, il n'est
donc
pas croisé.
Donc on a
croisé.
Le droit de l'excommunier parce qu'il n'est plus croisé.
Par contre, la première expédition, le pape a excommunié les routiers et ceux qui dirigent les routiers. Mais Duguesclin, il va quand même, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'argent. Il faut impérativement payer ses rançons qui coûtent une véritable fortune. Et le roi de France, Charles V, est particulièrement radin.
J'ai évoqué le fait que Duguesclin et ses troupes permettent rapidement à Henri de Trastamare, devenu Henri II, de récupérer le royaume de Castille. Pourtant, Duguesclin est ensuite fait prisonnier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait une erreur stratégique, là ?
Oui, il a fait une erreur stratégique. Il a écouté Henri II de Trastamare, qui, lui, veut une belle bataille avec de la chevalerie et une attaque frontale. Mais les Anglais, eux, utilisent la méthode stratégique de Duguesclin. Ils sont à pied et ils ont leur archer. Et là, c'est le massacre.
Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus sur ce titre de connétable de Castille, connétable de France ? C'est ce qu'on appellerait dans une époque plus récente un bâton de maréchal, c'est-à-dire qu'on peut pas...
Non, c'est beaucoup plus élevé que ça.
Ah oui.
Vous avez le connétable qui est tout en haut et le maréchal qui est en dessous.
Ah oui.
Vous avez les amiraux aussi qui sont en dessous. Le connétable, c'est celui qui dirige toute l'armée. Pendant la guerre de 100 ans, c'est la guerre, donc il a un pouvoir colossal. Le pouvoir militaire appartient au roi sur le champ de bataille, mais Charles V ne va jamais sur les champs de bataille. Ce qui fait que Duguesclin est toujours là, toujours présent, il est partout. On se demande même comment il fait, tellement c'est impressionnant.
Don d'ubiquité. Il y a un épisode célèbre de l'histoire que nous n'avons pas encore évoqué, c'est bien sûr l'affaire de Bretagne en 1378, dont le point de départ est la volonté de Charles V d'annexer le duché de Bretagne au royaume de France. Duguesclin n'aurait rien fait face à l'invasion de Jean IV et de ses troupes anglaises et aurait donc désobéi au roi. Pourtant, il est aujourd'hui encore considéré parfois comme un traître par les Bretons. Pour quelle raison ?
En fait, ce n'est pas un traître. Il reste fidèle à sa duchesse, qui est toujours Jeanne de Penthièvre, qui a le même âge que lui, qui était sa supérieure féodale. Donc il a toujours obéi à Jeanne de Penthièvre. Et Jeanne de Penthièvre, qui n'a pas obtenu de Charles V la restitution du duché de Bretagne, accepte que Jean IV, son ennemi et cousin, revienne. Et Duguesclin obéit à sa dame, plus qu'au roi de France. Charles V est furieux. Il envoie 4 armées. Ces 4 armées sont tous composées de Bretons et les dirigeants sont des amis, des compagnons de guerre de Duguesclin. Et Duguesclin ne fait rien. Il envoie des courriers en disant « Je suis soumis au roi de France, mais j'attends ». Et voilà, il est très... on a des documents là-dessus.
Mmh. Pour terminer, Duguesclin, 700 ans après sa mort, ne laisse personne indifférent. Vous l'avez rappelé, considéré comme un héros pour les uns, pour un traître pour les autres. À votre avis, il était plutôt l'un ou plutôt l'autre ?
Il était très fidèle à la duchesse de Bretagne, jusqu'à abandonner ses duchés, ses comtés, sa fortune. Extrêmement fidèle. Et donc, traître, non. Héros, oui.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Morvan d'être revenu avec nous sur ce connétable qui a fait campagne en Espagne et continue aujourd'hui alors de diviser un peu la Bretagne, sa région natale. Je rappelle la biographie éponyme que vous lui consacrez, toujours disponible aux éditions Fayard.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz du jour à suivre.
Oui, et aujourd'hui, je vous emmène au cinéma, tous les deux.
Ah oui ?
Écoutez. Vous reconnaissez
la
musique ?
C'est Harry Potter, ça ?
Exactement.
Bravo.
J'adore. J'ai visité les studios, là, près de Londres. Extraordinaire.
Ah bah écoutez, peut-être que vous pourrez répondre à une question aujourd'hui, alors. Ça
sur
fait
Harry
plaisir.
Potter, peut-être.
On verra ça.
Mais avant cet affrontement entre elle et moi, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de ces milliers d'enfants pendant la guerre d'Espagne qui ont été envoyés dans le monde entier pour être mis à l'abri de la guerre. Et pour certains, il a été bien difficile de les faire revenir.
Oui, parce que, voyez-vous, la situation des enfants en temps de guerre est évidemment particulièrement atroce. Et là, c'était le cas en particulier au début de la guerre à Madrid. Madrid, dont le siège par les nationalistes va durer pratiquement toute la guerre. La ville est constamment bombardée par l'aviation allemande. Les enfants sont complètement traumatisés, sont affamé. Il doit faire la queue pendant des heures pour un malheureux plat de lentilles. Et les Madrilènes les plus âgés qui ont été enfants à Madrid pendant ce siège évoquent, paraît-il, souvent ces plats de lentilles comme les soldats dans la ligne Maginot mangeaient du thon et du cornet de bif. Alors les lentilles, il n'y avait plus que ça à manger pendant le siège de Madrid. Les enfants, en plus, sont livrés à eux-mêmes dans les rues. Il y a plus, évidemment, il n'y a plus d'école. Et leurs parents se battent. Donc ils ne peuvent pas s'occuper d'eux. Les enfants apprennent du coup à être autonomes, à chaparder, à faire du troc. Et puis rapidement, ils vivent au milieu des cadavres. Et entre deux débarquements, ils voient les cadavres qui sont embarqués pour être sortis de la ville ou enterrés là où on peut. Et puis quand les enfants sont blessés, il n'y a pas de médicaments, il n'y a plus de médecins. C'est vraiment toute cette violence, il faut les en protéger. Alors le gouvernement républicain décide de procéder à des évacuations massives et en tout cela va concerner près de 50 000 enfants qui vont être évacués d'abord de Madrid, ensuite évidemment d'ailleurs en train, en taxi, en char, voiture à cheval, en bus, en voiture particulière, tous les moyens de transport qu'on trouve, naturellement un peu comme la débâcle en France en 40. Et on commence par les évacuer dans les zones qui sont les moins touchées par les combats et évidemment, et qui sont encore contrôlées par la République. Donc c'est d'abord la Catalogne et ensuite la zone du Levant espagnol. Le Levant, c'est le sud de l'Espagne côté Méditerranée. Et puis, devant l'avance franquiste, on peut plus les envoyer en Espagne parce que progressivement toute l'Espagne devient franquiste. Alors on commence à les embarquer, à les évacuer à l'étranger. Et la France va accueillir 20 000 de ces enfants espagnols. Et la première fois que certains d'entre eux sont accueillis en France est à l'île de Léron. Il faut imaginer cette petite île de Léron où débarquent du jour au lendemain 450 enfants espagnols. En Angleterre, on va en accueillir près de 4 000, en Belgique 5 000. En Angleterre, on va accueillir essentiellement des Basques. Parce qu'après le bombardement de sinistre mémoire de Guernica en avril 1937 et la chute de Bilbao, il y avait là un consul anglais que les franquistes appelaient le consul rouge, évidemment, pour le dénigrer. Il s'appelait Ralph Stevenson. Et Ralph Stevenson va négocier avec le gouvernement britannique pour qu'on puisse évacuer les enfants de Bilbao qui ont été victimes des bombardements et des bombardements de Guernica notamment. Donc il y a un bateau qui s'appelle la Havane qui part du port de Bilbao avec 4000 personnes à bord, donc des enfants, des enseignants, des infirmières, des médecins, des prêtres, et puis qui sont escortés par des troupes espagnoles et britanniques. Et trois jours plus tard, la Havane est accueillie à Southampton par des milliers de bénévoles. Alors là, on a mis en place un camp de 500 tentes, les enfants sont soignés, nourris, et puis envoyés dans toute l'Angleterre. Et ce qui est amusant, c'est que notamment, il y a beaucoup d'enfants qui vont être envoyés au Pays de Galles et qui vont créer une équipe de foot qui s'appelle les Diables Rouges, qui remporte un certain succès parce que c'est des ados qui sont très bons en foot. Et bientôt, ils vont organiser des matchs de foot dont les bénéfices sont utilisés pour essayer de rembourser un peu à l'Angleterre les frais qu'elle investit dans l'accueil de ses enfants. Alors, tous ces enfants-là, la plupart d'entre eux vont retrouver l'Espagne naturellement. Mais avec d'autres pays, c'est plus compliqué parce que, par exemple, il y a des enfants qui sont partis au Mexique, dont certains avaient leur famille déjà partie au Mexique, et le Mexique a refusé de les renvoyer. 500 enfants en juin 1937, on les appelle les enfants de la Morelia. Mais le régime mexicain ne voulait pas les renvoyer, ces enfants-là, parce qu'ils ne reconnaissaient pas le régime franquiste. Donc quand vous ne reconnaissez pas un régime politique, vous dites « Attendez, moi, j'en vois pas mes enfants là-bas ». Donc sur les 500 enfants qu'on appelle les enfants de la Morelia, il n'y en a que 61 qui sont retournés en Espagne. Pareil pour l'URSS. L'URSS, à l'époque, est une amie du gouvernement républicain. Et donc elle va recevoir 3000 enfants espagnols sans leurs parents. C'est beaucoup. Par exemple, Dolores Ibarruri, celle qu'on appelle la Pasionaria, elle était en 1936 députée des Asturies et membre du comité central du PC espagnol. C'est à elle qu'on doit le fameux slogan antifasciste « No pasarán ». Eh bien, elle avait pris les devants. Elle a eu 6 enfants, je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont survécu, ou 4 et seulement 2 qui ont survécu. Elle envoie 2 de ses enfants, Ruben et Amaya, en 1936, en URSS. Elle les rejoint d'ailleurs en 1939. Et à 15 ans, son fils Ruben s'engage dans l'armée soviétique. Et saviez-vous qu'il y a eu 1000 volontaires espagnols qui se sont engagés dans l'armée soviétique? Et le petit Ruben, fils de Dolores Ibarruri, eh ben en fin 42, donc 6 ans plus tard, après 6 ans après son arrivée en URSS, eh ben de sa maman, Dolores Ibarruri, reçoit un coup de fil de Khrouchtchev, qui à l'époque était évidemment à des années-lumière de devenir le patron de l'URSS, mais c'est Khrouchtchev qui lui apprend la mort de son fils Ruben à Stalingrad. Il n'avait pas 22 ans, il s'était battu pendant toutes ces années pour l'Union soviétique. Donc vous voyez, avant même la fin de la guerre d'Espagne, un certain nombre de ces enfants reçus en URSS qui sont rapatriés dans leur pays, mais d'autres n'y sont revenus qu'en 56 et 57, et d'autres n'y sont jamais revenus. Ils ont attendu désespérément de pouvoir le faire sans y parvenir. Il y a tout un documentaire intitulé « Los niños de Rusia » qui leur a été consacré en 2001. Et à la suite de ce documentaire, on s'est rendu compte de ce qu'avait été la situation de ces enfants-là. Il y a des quantités d'associations d'enfants de la guerre civile, mais aussi d'enfants d'exilés qui se sont multipliés. Et même une loi qui a été votée, une loi en 2007 dite Mémoire historique, qui a permis aux fils et aux petits-fils de ceux qui avaient dû renoncer à la nationalité espagnole de l'acquérir, rendant ainsi une justice tardive mais réparatrice aux niños de Rusia et aux enfants de la Morelia qui n'avaient jamais pu revoir leur pays.
Merci beaucoup Clémentine. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où la rigueur s'arrête sur une aire d'autoroute. Fort heureusement, ça ne dure pas très longtemps.
Oui, juste le temps de poser quelques questions et de tenter de glaner quelques bonnes réponses. Il faut dire la vérité, je suis souvent impressionné par votre niveau de culture historique. Et continuons dans la sincérité, parfois pas du tout. Hein ? Alors, jouons. Une question pour vous, Stéphane. De 1902 à 1959, il a existé aux États-Unis un magazine scientifique et technologique du nom de Popular Mechanics. En mars 1912, on y trouve un article racontant que dans 100 ans, les robots seraient capables de parler avec nous, d'avoir un discours intelligent et autonome, et ce, grâce à l'observation de milliers de conversations humaines. C'est ni plus ni moins la description de ChatGPT. Vrai ou faux ?
Ce serait pas mal, c'était vrai.
Mais est-ce qu'il y a des robots en 1902, Stéphane, à votre avis ?
Ben c'est une extrapolation, là, c'est une anticipation.
Oui, mais ouais, pour imaginer qu'il y aura des robots...
Disons que ça serait possible dans un roman, mais difficilement dans un magazine...
Faut voir, hein. C'était très
non,
en avance.
Moi, je trouve ça. C'est, votre histoire, c'est bizarre parce que robot, ça vient de robot, ça vient du russe, ça vient du mot de rabot et ça veut travailler. Donc, c'est une notion qui est liée au taylorisme et au stakhanovisme. Donc, je vois pas comment. En 1902, on parle d'un robot. C'est ça qui m'intrigue.
C'est en mars 1912.
J'ai dit
non. 1912, mais même 1912.
Vous dites non ? Vous suivez ?
Non, mais non, non, mais moi j'ai rien répondu pour le moment, je m'interroge.
Moi je dis non.
Vous dites non ?
Il faut avancer. Hein,
allez, avançons alors.
Vous avez gagné !
Et vous avez gagné. Mais dans Popular Mechanics, il y a eu un article de 1902 qui expliquait qu'à terme, l'exploitation du charbon pourrait impacter le climat. Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
C'était en 1902. Une question pour vous, Clémentine. Des écrits du XVIIIe siècle ont été retrouvés signés du capitaine Philippe. Vous connaissiez le capitaine Philippe, sans le E à la fin ?
Non.
Eh bien, ce dernier fut le premier gouverneur de la première colonie européenne sur le continent australien. Il a dû, par contrat, garantir aux marins, les marins qui faisaient le voyage, un nombre suffisant de canots de sauvetage à bord du bateau. Visiblement, les marins sans cette garantie ne voulaient pas partir. Vrai ou faux ?
Non. C'est faux.
C'est un plaisir de discuter avec vous, en tout cas.
Faudrait savoir, hein. Parfois vous me trouvez trop bavarde, et là vous trouvez que j'en dis pas assez.
C'est pas ça, le problème c'est que vous êtes très bavarde
sur
les questions de Stéphane et jamais sur les vôtres. Expliquez-moi ce paradoxe.
C'est vrai, les siennes sont plus intéressantes, je sais pas, c'est la fatalité.
Maintenant je m'adapte juste.
J'ai répondu faux, cher ami.
Ah, ça veut dire enchaîne, poliment. J'enchaîne alors à ce moment-là.
Vous avez gagné.
Bravo.
Mais est-ce que vous savez ce qu'ils ont exigé, les marins ?
Ils ont exigé, à mon avis, du ratafia, des barils de rhum, de l'alcool, du grog pour lutter contre le scorbut.
Là, je la retrouve, ma championne. Non, les marins ne voulaient effectivement pas partir, mais pour une autre raison. Dans leur contrat, il était écrit qu'on leur donnait du rhum toute la traversée. Ils ont demandé à ce qu'on leur en fournisse, même une fois sur place. Et ce, tant qu'ils travaillaient pour l'administrateur colonial britannique. Une question pour Stéphane, maintenant. En France, le premier code du travail est adopté par une loi du 28 décembre 1910. En droit anglo-saxon, la principale source est maintenant législative, alors qu'elle fut pendant longtemps issue de la jurisprudence. Voici ma question. Le code du travail britannique a été modifié pour qu'on puisse tourner au cinéma Harry Potter. Vrai ou faux ? C'était ça la question Harry Potter.
Il aurait pu y avoir, Stéphane,
le droit des enfants.
Oui, quelque chose le droit des enfants et toucher leur cachet, par exemple, peut-être.
Oui. Et puis les heures de tournage, c'est tellement compliqué de tourner avec les enfants. C'est très possible, oui. Je dirais oui.
Vous dites oui ? Oui. Pas d'hésitation ?
Il faut prendre des risques dans la vie.
Vous demandez à la dame ou...
Il faut prendre son risque.
Prenez votre risque, Stéphane, vous avez bien raison. Eh bien, écoutons si vous avez bien fait.
Vous avez encore gagné.
C'est vrai, il était spécialement modifié pour le tournage du premier film d'Harry Potter. Avant, les enfants ne pouvaient pas tourner plus de 4 heures par jour. Et depuis, c'est 5 heures avec une pause au milieu quand même.
Un goûter.
Voilà.
Du pain d'épices beurré dans du papier à alu.
C'est bien.
Des chamonix orange.
Ah, chamonix orange, vous envoyez du rêve là quand même. Une question pour Clémentine, va-t-elle réussir à égaliser ou encore une fois va-t-elle échouer et va-t-elle repartir ?
Oh, ça va, n'enfoncez pas le clou non plus.
La tête dans les épaules. Restons dans le droit en France et évoquons la majorité sexuelle, Clémentine. Mm-hmm. Elle est aujourd'hui fixée à 15 ans. En 1982, elle était à 18 ans pour les personnes homosexuelles. En 1832, la majorité sexuelle était fixée à 11 ans. Vrai ou faux ?
En 1832.
Ouais, la majorité sexuelle était fixée à 11 ans.
Non. Moi non plus.
Non. Non, puisque regardez Jeanne d'Arc qui en a 13 refuse de se marier. Et puis on mariait les enfants très jeunes. On pouvait marier des enfants à 5 ans, mais c'était pas pour ça que la notion de majorité sexuelle. En plus, je pense pas qu'elle était,
elle était dans le
code en 1832. Non, intuitivement je réponds non.
Sens que vous voulez aller vite aujourd'hui, donc je vais pas insister. On écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Et vous êtes libérée, Clémentine. Elle est arrivée à... C'était vrai, et elle est arrivée à 15 ans en 1945.
Donc elle était à 11 ans en 1832.
Voilà.
Oh là là.
Alors là, vraiment. On en a appris quelque chose.
Voilà.
11 ans en 1832.
Sur votre dos, mais on a appris quelque chose.
Exactement.
J'aurais jamais pensé ça.
Merci beaucoup d'être passé, en tout cas.
Merci Clémentine.
Dis donc, j'ai quand même répondu bon à une question.
Merci Clémentine.
Je me contente de peu ces temps-ci.
Oui, c'est ça.
T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Clagueball.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits jusqu'à la 13e génération de nos rêves.
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Évidemment, je ne suis pas seul, ils sont trois, ils sont avec moi, Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez et notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls.
Eh oui,
tous là.
Et ceux qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun, et c'est bien pour cela d'ailleurs qu'on les réunit cet après-midi, nos trois personnages du jour, qui sont partis faire campagne en Espagne. Après Bertrand du Guesclin, le cavalier devenu chef de guerre, parti avec ses hommes faire campagne en Espagne, je vous raconte André Malraux, l'écrivain de La Condition humaine qui s'est engagé, lui, aux côtés de la gauche républicaine face aux nationalistes de Franco durant la guerre civile espagnole. Malraux qui se retrouve, et c'est tout sauf un hasard, aux côtés d'Albert Camus, Charles de Gaulle, Winston Churchill, Willy Brandt, Georges Clemenceau, Louise Michel, Charb ou encore Volodymyr Zelensky dans le livre de notre invité spécial aujourd'hui, Le courage guidait leurs pas, écrit par l'ancien Premier ministre. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de votre invitation.
Vous réunissez donc tous ces personnages et d'autres encore dans votre livre qui paraît aujourd'hui même. Ils ont le point commun d'avoir fait preuve de courage, mais aussi donc celui d'être dans votre panthéon personnel. Ça a été difficile de choisir, mais il y a quand même eu des évidences.
C'est difficile parce qu'ils sont très nombreux dans l'histoire, femmes ou hommes, à faire preuve de courage, mais il fallait faire... un choix, et dans mon panthéon personnel, comme vous dites, il y avait un certain nombre d'évidences. Clémenceau, bien sûr, Camus, parce que c'est la lutte contre l'intolérance, Churchill et De Gaulle, c'est un travail qui a déjà été fait, mais leur grand discours de mai et de juin 1940. Voilà, mais j'essayais d'avoir à la fois des personnages historiques, des intellectuels aussi, pour illustrer cette vertu mystérieuse qu'est le courage. Mmh.
À propos de courage, d'ailleurs, je vous présente Jean-Luc Lemoyne.
Bonjour, bonjour. Je viens de l'Essonne, moi aussi. 9 ans dans la place.
Ah, oui, essayez de vous faire bien, de me mettre bien avec notre ancien Premier ministre Jean-Luc, qui nous raconte à sa manière, c'est important de le préciser, chaque jour, le vivant de l'étape, qui a un point commun avec nos deux premiers personnages. Et après ceux qui sont partis faire campagne en Espagne, il va s'intéresser à celui qui est aussi parti faire campagne en Espagne, au sens, disons, moins guerrier du terme.
Moins dangereux,
mais,
surtout. Oui.
Mais c'est aussi une bataille, certes politique, mais c'est une bataille.
Oui, et je vais vous prouver, Manuel Valls, que le courage guide aussi mes pas. Et je ne désespère pas d'intégrer le tome 2 de votre livre, une fois que vous aurez écouté le portrait que je vais dresser de vous tout à l'heure.
Ce sera juste avant 17h30. Et dans la dernière partie de l'émission, comme tous les jours, vous retrouverez, chers auditeurs, deux aides qui font campagne aussi. Une campagne commune pour le retour du jus de viande dans le viandog.
Oui, on a fait
Olivier Pouls, dans Mes aïeux, quelle époque, on ne parle pas aujourd'hui de viandox. Non. Puisque vous nous ramenez aujourd'hui au 18e siècle pour découvrir ce qu'il y avait à la table des pirates. Ouais. Et c'est pas
très ragoûtant. Non. Vous allez voir que parmi ceux qui ont eu à manger des choses un peu compliquées dans l'histoire, ben les pirates sont plutôt pas mal placés.
Et vous, David Kessel-Lopez, vous nous racontez les origines de la découverte des dinosaures.
Oui, c'est tous ces os qu'on trouvait depuis la nuit des temps dans la Terre. On se dit, mais ils appartiennent à quoi? Des espèces de géants du passé, de créatures fantastiques. Il a fallu que plein de choses soient réunies pour qu'on comprenne que c'était des espèces éteintes. Et je vous raconterai toute cette histoire-là.
Très bien. Rendez-vous donc en fin d'émission. Mais pour l'heure, je vous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Son œuvre, c'est sa vie, écrivait François Mauriac dans l'Écho de Paris en septembre 1933. Une vie de poète, d'essayiste, de journaliste, d'écrivain, de politique aussi. Un intellectuel qui recherchait désespérément comment dépasser sa condition d'homme et a souvent lutté pour défendre la liberté des peuples. En 1936, quand la guerre civile commence en Espagne, il s'engage aux côtés des républicains contre l'armée de Franco. En compagnie de notre invité spécial cet après-midi, Manuel Valls, je vous raconte maintenant André Malraux. Quand ils apprennent la nouvelle, Clara et André Malraux sont au théâtre avec le couple Lagrange. Léo Lagrange, ami de Malraux, est un membre du gouvernement socialiste de Léon Blum que le Front populaire vient de placer au pouvoir en France. André Malraux se lève, interdit. Sa silhouette grande et mince, sa mèche noire qui lui balaye le front et sa mise élégante donnent toujours à l'écrivain de 34 ans cet air de dandy un peu précieux qu'il affiche depuis qu'il a quitté sa banlieue de Bondy pour Paris à l'âge de 20 ans, à l'aube des années folles. L'homme de gauche qu'il est encore ne peut cacher son inquiétude. De l'autre côté des Pyrénées, où le Frente Popular a aussi remporté les élections en février dernier, où Malraux a rencontré le président Manuel Azaña en personne lors d'une visite 2 mois plus tôt, la Seconde République espagnole est en danger. Le général Francisco Franco vient de tenter un coup d'état militaire contre le gouvernement et les forces nationalistes qu'il dirige menacent désormais durablement le régime en place. De ce premier passage en force, des 17 et 18 juillet 1936, la guerre civile embrase le pays. L'Espagne se déchire désormais entre deux camps. Les nationalistes de Franco d'un côté, disposant de moyens militaires importants auxquels s'ajoutent les renforts d'armes, de chars et d'avions allemands et italiens, et les républicains de l'autre, abandonnés par les démocraties voisines qui se regroupent en milices désorganisées auxquelles viennent bientôt prêter main forte des brigades internationales formées de volontaires venus de toute l'Europe. Après ses péripéties en Asie, dont l'exposé romancé lui a valu de devenir un écrivain célèbre et admiré, Les Conquérants, Paris en 1928, La Voix royale, édité en 1930, et La Condition humaine, publié et sacré prix Goncourt en 1933, ont chacun remporté un vif succès. C'est un nouveau combat qui appelle maintenant celui qu'on glorifie comme le héros de l'antifascisme. Humblement courageux ou peut-être superbement inconscient, André Malraux décontenance en tout cas son entourage par sa promptitude à s'engager dès qu'il le peut en faveur de nouvelles causes. Partout, s'il ne suscite pas l'unanimité parmi son auditoire, l'homme cultivé et éloquent impressionne par son esprit d'aventure doublé d'une intelligence supérieure. Partisan convaincu du communisme, André Malraux n'hésite pas une seconde. Avec son épouse Clara Negoldschmidt, sa compagne de voyage depuis leur mariage en 1921, il s'envole pour l'Espagne dès la fin du mois de juillet 1936. Le petit rapace, comme le surnomme François Mauriac, n'a pas froid aux yeux. Si le poète des jeunes années a été capable de partir en Asie à seulement 22 ans avec son épouse et un troisième complice pour voler des statues dans un temple d'Angkor dans le but de les revendre en Europe, s'il a pu supporter un procès qui le menaçait de 3 ans de prison ferme, s'il a eu le cran de fonder ensuite, malgré tout, en 1925, en Indochine, un journal engagé contre un régime colonial qu'il jugeait corrompu, pourquoi André Malraux tremblerait-il à l'idée de s'improviser soudainement chef de guerre? Lui qui rêve de grandeur, depuis son plus jeune âge, se lance même dans l'aviation, dont il ignore pourtant tout. Prédisant à raison que le prochain conflit mondial se réglera dans le ciel, il implore le ministre de l'air français, Pierre Cotte, de fournir aux républicains espagnols de vieux avions et du matériel de réparation. Après avoir réuni une 30aine d'appareils et engagé une 20aine de mercenaires étrangers, il fonde une escadrille indépendante, l'escadrille Espagna. Pendant 7 mois, Malraux, à qui l'Espagne a octroyé le titre de colonel, apporte ainsi son aide aux milices républicaines en ralentissant l'avancée des franquistes. En novembre 1936, l'escadrille est incorporée aux brigades internationales qui arrivent sur le territoire. Puis en février 1937, après plusieurs opérations menées sous la direction de l'écrivain français dont l'utilité reste discutée, l'épopée de l'escadrille, bientôt rebaptisée Escadrille André Malraux, s'achève sur un échec à Malaga, en Andalousie. La meilleure arme de Malraux demeurera toujours sa plume. Comme de tous ses combats, le génie de 35 ans fait de la guerre d'Espagne un roman. Alors qu'il revient d'une campagne de 2 mois en Amérique du Nord, au cours de laquelle il a récolté des fonds pour les républicains espagnols, il entame sur le transatlantique Normandie l'écriture de l'espoir. Le livre, cruel et saisissant, est aux yeux d'André Malraux son œuvre la plus réussie. L'espoir paraît en librairie en décembre 1937 et aussitôt son auteur compte l'adapter à l'écran. Voici encore un autre Malraux. Le Malraux réalisateur. Le tournage débute en juillet 1938 à Barcelone sous les bombes fascistes. Il dure jusqu'à ce que l'indocile Catalogne tombe aux mains des nationalistes au début de l'année 1939. André Malraux et sa nouvelle compagne Josette Clotis quittent alors le pays que le général Franco déclare conquis le 1er avril 1939. Là-bas, une dictature de 35 ans débute. En France, c'est la Seconde Guerre mondiale qui s'engage 5 mois plus tard. À peine Malraux a-t-il eu le temps de projeter son film que le gouvernement Daladier le censure. L'espoir ne sort finalement en salle qu'en 1945. André Malraux a alors presque 44 ans. Et en 6 ans, sa famille s'est agrandie. Florence, sa première fille, née de Clara Malraux en 1933, a eu 2 petits frères, nés de Josette Clotis. Mais les Malraux ont aussi été endeuillés. Les 2 demi-frères d'André ont été tués pour leurs actes de résistance pendant la guerre. L'écrivain, engagé tardivement pour la France libre, reçoit quant à lui la Légion d'honneur au printemps 1945, après s'être battu dans les rangs du maréchal de Lattre de Tassigny pour reprendre l'Alsace aux Allemands. André Malraux, à qui le communisme apparaît comme une imposture depuis le début de la guerre, défend désormais de Gaulle. Ministre au sein de son gouvernement provisoire, puis ministre des Affaires culturelles sous la Ve République, il est considéré comme un traître à ses idées par les intellectuels de gauche et critiqué pour la politique que le pouvoir mène en Algérie. En proie à la dépression, André Malraux se soigne en passant aussi les dernières années de sa vie aux côtés de sa nouvelle épouse Madeleine Liu, puis de Louise de Villemorin, puis seul, à confectionner des livres d'art magnifiant les plus beaux souvenirs de tous les voyages de sa vie. André Malraux meurt le 23 novembre 1976 à l'âge de 75 ans. 20 ans plus tard exactement, il entre au Panthéon comme un ultime hommage de la nation à toutes ses actions qui sont, elles, allées bien au-delà de son pays.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'André Malraux, nous sommes toujours avec notre invité spécial cet après-midi, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, parti en Espagne lui aussi, et qui réunit Malraux aux côtés de nombreux autres illustres personnages dans son livre qui paraît aujourd'hui même. Manuel Valls vous publie en effet « Le courage guidait leurs pas, 12 destins face à l'histoire » aux éditions Talendier. Un livre de portrait dans lequel André Malraux occupe une place de choix. Il faut dire qu'il réunit tout à la fois votre intérêt pour la littérature, pour les belles lettres, mais aussi pour la guerre d'Espagne qui a été, vous le dites, dans votre livre, au cœur d'innombrables discussions familiales, d'autant plus que vous êtes vous-même originaire de Catalogne, une région qui a subi l'offensive franquiste de plein fouet, hein, comme je l'ai rappelé, n'est-ce pas ?
Absolument, oui. Barcelone était à la fois un lieu, une cocotte minute de ce que j'appelle la guerre civile dans la guerre civile, ou de la révolution au sein de la guerre civile, et qui explique d'ailleurs aussi la défaite des républicains, les divisions au sein de la gauche et l'emprise croissante du Parti communiste sur Barcelone, mais aussi évidemment un objectif essentiel pour Franco, et Barcelone tombera avant Madrid, tombera, comme vous l'avez rappelé très bien, en janvier 1939.
Mais c'est vrai qu'André Malraux réunit en plus cet amour des lettres qui vous porte aussi.
Oui, je voulais parler de l'Espagne, j'ai cherché un personnage espagnol, je ne le trouvais pas, et au fond s'est imposé Malraux parce que, d'abord vous le rappeliez, la guerre d'Espagne était en toile de fond de toutes les discussions. Mon grand-père était un directeur de journal, à la fois catholique, catalaniste, républicain. Il a souffert pendant la guerre civile parce qu'il cachait les curés pour les sauver des anarchistes. Et puis après, il a été interdit de journalisme par Franco. Et comme catholique, il ne supportait pas, comme Bernanos au fond, qu'on puisse tuer au nom de Dieu. Et donc, les discussions familiales qui portaient sur le sectarisme, la violence des deux côtés de cette guerre civile épouvantable m'ont affranchi d'une certaine manière de tous les totalitarismes, de toutes ces idéologies qui ont mené le XXe siècle au pire malheur. Et puis l'épopée de Malraux, son courage, et puis c'est un intellectuel qui s'engage. Il aurait pu rester au fond comme Gide, marqué comme ça, comme une autorité morale, ça n'a pas été le cas. Il a été courageux, parce qu'il risquait sa vie, sa peau, en étant dans ces avions qui étaient extrêmement dangereux. Beaucoup s'écrasaient sur le sol au moment du décollage.
Vous racontez dans votre livre que c'est votre père qui, d'abord, vous a fait connaître et vous a fait lire Malraux. D'abord la condition humaine, puis l'espoir sur cette guerre d'Espagne. Qu'est-ce qui vous a séduit d'abord ? Ce sont ses idées ou sa plume ?
L'épopée, ses idées. La plume, la littérature de Malraux n'est pas facile quand on est un adolescent, la condition humaine notamment. L'espoir, c'est différent. C'est les personnages, je parle de ces personnages, les communistes, les anarchistes, un journaliste américain, un républicain catholique, sont des personnages fascinants. Au fond, c'est presque déjà un scénario de film. Et puis, mon père, artiste peintre, connaissait très bien le couple Bernard Antonioz et Geneviève de Gaulle Antonioz. Bernard Antonioz était conseiller d'André Malraux. André Malraux avait fait beaucoup pour la peinture et pour le statut des artistes peintres. Donc il était aussi dans le panthéon familial pour ces raisons. Et puis j'ai eu la chance de connaître Geneviève de Gaulle Antonioz, la nièce du général Dong, résistante, déportée à Ravensbrück, mais qui m'a fait découvrir le film Espoir, Sierra de Teruel, dont vous parliez. Ce film assez incroyable, fait par Malraux, qui n'était pas cinéaste lui-même, comme il n'était pas colonel et comme il n'était pas pilote d'avion, mais qui montrait déjà une autre facette de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire ce qui conduisait à la défaite, parce que l'espoir se termine quand même avec l'idée que les républicains peuvent l'emporter. C'est une des batailles, une des rares batailles qu'il gagne, celle de Guadalajara à côté de Madrid.
Vous expliquez que l'espoir de Malraux n'est pas un roman communiste, voire même tout le contraire. Quel est au fond le message de ce livre ?
C'est contre tous les totalitarismes. Et puis surtout, il est extraordinairement ou terriblement d'actualité. D'abord, c'est un livre aussi sur la tolérance. Et puis c'est un livre à la fois pour dénoncer, bien sûr, le coup d'État des fascistes, des franquistes. Mais vous le disiez aussi dans votre introduction, il comprend, Malraux, que la guerre d'Espagne, la guerre civile, est la répétition de la guerre mondiale. Et il fustige ces démocraties qui sont incapables de comprendre et de s'engager, alors que Hitler et Mussolini, eux, aident totalement les insurgés, Franco, les nationalistes, parce qu'ils savent que c'est très important pour eux avant le déclenchement de la guerre, de la guerre mondiale. Il y a d'ailleurs dans le livre un journaliste, il y a le journaliste américain qui s'exprime et qui dit au fond, les fascistes ont aidé les fascistes, les communistes ont aidé les communistes, et même la démocratie espagnole, les démocrates, les démocraties n'aident pas les démocrates. Nous, démocrates, nous croyons à tout, sauf à nous-mêmes. Il y a des résonances par rapport à ce qui se passe en Ukraine, même si heureusement, cette fois-ci, même si c'est difficile de comparer les situations, nous aidons les Ukrainiens. Mais quand la démocratie est en danger, il ne faut pas hésiter à s'engager. Et c'est cet engagement de Malraux, malgré tous ses défauts, malgré toutes les critiques, qu'il faut saluer.
On cherche toujours dans un livre de portrait le portrait en creux de son auteur. Et justement, Malraux, avant d'être un homme politique, était déjà un auteur politique pour vous. Et est-ce que ses écrits ont inspiré l'homme politique que vous êtes devenu ?
Précisément, j'ai pris de tels personnages qu'il faut surtout être modeste, d'une très grande humilité, face à Malraux, un De Gaulle, un Churchill ou un Camus. Mais je crois dans l'engagement politique, bien évidemment, et je crois dans la littérature, non pas qu'elle doit être forcément engagée, mais qu'un homme de lettres, un prix Goncourt, un auteur à succès, s'engage ainsi, trouve enfin dans la guerre d'Espagne, au fond, son accomplissement. Oui, c'est, de ce point de vue-là, il est exemplaire. C'est pour ça que je l'ai mis dans ces personnages comme un de ces exemples qui nous guident.
Oui, Malraux d'ailleurs finit par faire de la politique, comme on dit, en devenant quasiment ministre de la culture, même si le terme n'existait pas encore à l'époque. Vous l'associez aujourd'hui dans votre livre à d'autres hommes politiques dont vous louez le courage et la bravoure, Clémenceau, Churchill, De Gaulle. Est-ce qu'au-delà finalement des divergences d'idées, vous lui voyez un trait de caractère commun qu'il partage avec ces hommes, De Gaulle, qu'il avait fini par rejoindre d'ailleurs?
Oui, c'est la force de la conviction, des valeurs profondément ancrées et un goût de la liberté. Ce sont tous des hommes ou des femmes qui aiment la liberté. Et dans cette époque trouble qui est la nôtre, où la démocratie est mise partout en cause, rappeler que ces hommes, ces femmes se sont engagés pour la liberté, parfois au prix de leur vie. Je termine le livre évidemment sur le portrait évident de Jean Moulin, mais le Jean Moulin préfet, avant qu'il ne s'engage dans la résistance, qui n'accepte pas que les Allemands veuillent lui faire signer un document qui démontrerait que des tirailleurs sénégalais ont tué et violé des civils, alors que c'est l'armée allemande qui a accompli ce crime atroce, et il se coupe son cou, portera cette fameuse écharpe toute sa vie. Eh bien, c'est le goût de la liberté et une très haute dimension morale. Et puis, ce sont des événements, parfois, au fond, ces personnages illustres saisissent une occasion, saisissent un moment, un basculement de l'histoire pour devenir des personnages qui sortent même de leur confort. Au fond, Malraux aurait pu être seulement un écrivain, et c'est déjà immense. Mais non, il sera engagé. C'est vrai qu'il, dans sa biographie, Olivier Todd est sévère avec lui. C'est vrai qu'il rentre très tard dans la résistance, mais il le fait quand même. Et puis, il sera ce compagnon, le barde, du général De Gaulle. Donc, c'est un de ces personnages, bon, très français, au fond, très français, courageux, et qui s'engage au nom de valeurs universelles qui, à mon avis, sont plus que jamais indispensables aujourd'hui.
Manuel Valls, vous réunissez dans ce livre quelques-uns de ceux qui ont fait preuve de courage et ont marqué l'histoire. André Malraux, dont on a parlé, mais aussi Camus, Jean Moulin, De Gaulle, Churchill, Louise Michel, seule femme de votre livre, seule aux côtés malgré tout des 343, les salopes et leurs manifestes qui réclamaient le droit à l'avortement. Sans elle, dans votre ouvrage, on aurait pu croire que vous pensiez que les femmes étaient absentes de l'histoire ou qu'elles avaient moins de courage ?
Non, pas du tout, mais j'ai pas raisonné ainsi. J'ai fait ma propre liste, mon panthéon personnel. J'ai commencé par Charb, parce que c'est courage du journaliste. Et puis ensuite, j'étais bouleversé par une biographie de Sébastien Castillon, un théologien protestant, une biographie de Stéphane Zweig, qui s'est affronté à Calvin suite au supplice de Servet, qui était considéré comme hérétique à Genève. Donc j'ai tiré le fil, Clémenceau, Louise Michel, puis j'ai cherché un autre intellectuel, mais différent, un poète russe. J'y ai associé sa femme, Nadejda, qui a appris par cœur tous les poèmes d'Ossip Mandelstam pour conserver, après le goulag, là où il est mort, pour conserver sa mémoire. C'est une très belle histoire. J'ai hésité, par exemple, je voulais faire un portrait croisé peut-être de Simone Veil et de Geneviève de Gaulle, Antonius, dont nous avons parlé il y a un instant, réunis évidemment dans des camps de concentration, l'une à Auschwitz et l'autre à Ravensbrück. Mais j'ai avancé ainsi, et je n'ai pas voulu faire une parité, mais évidemment, les femmes sont courageuses. Ce qui est vrai, c'est que dans l'histoire, les chefs d'État, les responsables politiques, les chefs de guerre étaient des hommes, mais dans quelques dizaines d'années, quand d'autres feront ce type de portrait, eh bien, on peut prendre d'autres figures. J'ai pris ceux qui, pour moi, avaient compté dans ma construction intellectuelle et politique.
Et justement, dans votre construction politique, quel est celui qui vous a sans doute le plus inspiré pour votre parcours ? J'ai le sentiment que ça peut être Clémenceau.
Oui, bah, inspiré, et encore une fois, toujours avec cette modestie indispensable. Clémenceau, parce qu'il ne s'est jamais trompé sur l'essentiel. Jamais. C'était le médecin des pauvres pendant la Commune. Il a compris aussi ce qui se passait pendant la Commune et les exactions qui allaient conduire à son échec, contre le colonialisme de Ferry, pour la laïcité, pour Dreyfus, bien évidemment, le premier grand ministre de l'Intérieur, celui qui sauve la patrie en 1917. Et au milieu de tout cela, deux autres qualités pour moi indispensables. C'est celui qui défend les impressionnistes, c'est l'ami de Claude Monet, qui protège d'ailleurs les tableaux de son ami, parce qu'il y a des dingues qui veulent détruire ces tableaux. Et puis un homme qui aimait le monde, qui parlait plusieurs langues, qui connaissait l'Asie, l'Amérique, qui aimait les femmes. Bon, donc c'est un personnage aussi très français, très truculent, radical parfois, se trompant, se faisant beaucoup d'ennemis à cause de ses bons mots. Il n'y a pas de personnage parfait, non. L'être humain n'est pas parfait, mais qui ne se trompe jamais dans les moments où tout bascule.
Et puis qu'il y a eu des éclipses politiques et qui nous laissent penser qu'on peut toujours revenir.
Je vois venir. oui, c'est comme d'autres, comme Joe Biden, c'est un exemple pour
Churchill,
nous tous.
Churchill, par exemple.
Churchill
aussi.
Alors, c'est très intéressant parce que, au fond, Churchill, s'il n'est pas Premier ministre en 1940, c'est un politicien brillant qui écrit merveilleusement bien, mais qui ne rentre pas dans l'histoire. Et si de Gaulle n'est pas appelé par Poincaré, par les événements, puisque la France est en train de perdre la guerre en 1917, de Gaulle aura été un grand ministre de l'Intérieur, l'homme qui a permis à Émile Zola d'écrire J'accuse dans son journal, mais il n'est pas le père de la patrie, il n'est pas celui qui sauve notre pays. Et de Gaulle, c'est au fond aussi la même chose. Donc, comme quoi, l'histoire, la vie, tout simplement, nous réserve des surprises. Mais, croyez-moi, je reste modeste.
On préfère que ce soit des bonnes surprises.
Bien sûr.
Manuel Valls, vous avez été maire, député, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, candidat à la présidentielle, candidat plus récemment à la mairie de Barcelone. Est-ce qu'il y a un moment en particulier dans votre carrière politique, vous avez eu le sentiment d'avoir été contraint à faire la preuve de votre courage? Je ne sais pas si soumettre à une élection, c'est... courage. Moi, je pense que vous avez vécu des moments, notamment où, quand la France était attaquée de l'intérieur, et un discours peut-être au Parlement où là, il a fallu faire preuve de courage.
Je ne compare pas ce courage avec ceux qui risquent leur vie, bien évidemment. Mais bon, il y a un moment où il faut démontrer ses convictions. Il faut dire ce que l'on pense. Il faut combattre, c'est aussi l'un des fils conducteurs du livre, le fanatisme. C'est pour ça que je parle de Charb et de Camus. Donc évidemment, à chaque fois, sans comparer, c'est vrai que la manière dont, avec François Hollande et Bernard Cazeneuve, que je n'oublie pas, dont nous avons tenu le pays face au terrorisme, au risque de division, oui, ça au moins, vous pouvez vous dire, en regardant déjà dans le rétroviseur votre passé, ça, nous avons tenu dans des moments très difficiles le pays. Je ne sais pas si c'est du courage, mais en tout cas, c'est de la fierté de l'avoir fait, et de l'avoir fait notamment avec les Français qui ont été exemplaires dans ces moments.
Merci beaucoup, Manuel. Vous restez avec nous aujourd'hui, vous l'avez compris, historiquement vôtre, et une des personnages qui sont partis faire campagne en Espagne, avec Bertrand Duguesclin, André Malraux, et avec vous, Jean-Luc Lemoine. Vous dressez le portrait de notre invité spécial, qui est Manuel Valls, et qui est parti faire campagne électorale en Espagne.
Oui, en fait, je n'avais pas compris que Manuel Valls restait avec nous pendant le portrait. Hein
non, mais c'est là où il faut faire preuve de courage.
C'est ça. D'habitude, les personnalités dont je parle ne sont pas face à moi, ce qui est super, parce que je peux dire toutes les vacheries que je veux. Mais là, du coup, avec tout ce que j'ai écrit, j'ai comme un doute. Hein, non pas Manuel Valls, que suite à une boutade mal appréciée, je crains de votre part une mandale à la Will Smith. Hein. Non, physiquement, vous ne m'impressionnez pas du tout. En revanche, en tant qu'ancien Premier ministre, vous avez a priori un secrétaire, plus un chauffeur à votre service, donc vous êtes à 3 contre 1. Oui, parce que je ne compte pas du tout sur mes lâches collègues ici présents pour me défendre. Même celui qui ressemble au bestial commandant Paul Leclerc de Pour l'honneur d'un fils. Non, vous ne ferez rien pour moi. Non. On est d'accord. Bref, tout ça pour dire que le courage ne guidant pas mes pas, je ferai sans doute un peu d'autocensure à la volée. Ou pas. Allez, c'est parti. Et oui, comme Bertrand Duguesclin et André Malraux, notre hombre du jour, est lui aussi parti faire campagne en Espagne. Le 2 octobre 2018, Manuel Valls démissionne en effet de son mandat de député de l'Essonne pour préparer sa candidature à la mairie de Barcelone. Courageux. Ce jour-là, il ne fait pas dans la demi-mesure, il y va franco. Enfin franco, franchement quoi. Hein, faire attention à ce qu'on dit. Bah oui, mais il est comme ça depuis toujours, Manuel Valls, ambitieux et audacieux. Et puis, il est né espagnol. La sangria coule dans ses veines. Il aime autant son pays d'origine que son pays d'adoption, tout comme Anne Hidalgo, Paco Rabanne, Victoria Abril et bien sûr, le plus célèbre et le plus brillant des franco-espagnols. Je vous parle évidemment de... D'après vous, le plus brillant des franco-espagnols.
Allez-y.
Carcimor, le magicien et musicien qui a su exprimer
notre
son
enfant.
Amour. Exactement. Et qui a su exprimer son amour de la double patrie avec une grande finesse.
La sangria, les malaga, la paella, la tortilla. Ça, c'est l'Espagna. Les cassoulets et les cibés, les muscadets, les beaujolais. Ça, ça c'est français.
Voilà, si on m'avait dit que je partagerais un jour ce monument de la chanson avec un ancien Premier ministre.
On n'entend plus trop la radio d'ailleurs, c'est bizarre.
C'est étrange, ça va revenir. Mais je pense que ça va être remixé à un moment. Vous ne connaissiez pas cette chanson ?
Non, je ne connaissais pas. Non plus.
Malheureusement, bon, bah ça c'est Manuel Valls, désolé, je suis quand même un peu obligé de le dire. Votre campagne pour les municipales est une semi-victoire, voire un semi-échec, voire un échec, puisque vous n'arrivez que de quatrième. En 2019, vous ne devenez donc pas maire de Barcelone, mais seulement conseiller municipal, ce qui est déjà pas mal, hein, mais pas ouf non plus. No es ou fausse, comme on dit en espagnol, et même un poco la lusos. Hein. Ne me fixez pas comme ça, Manuel Valls, hein, c'est pas de ma faute. C'est, pas ma faute. C'est vrai que vous le saviez pourtant déjà, autant vous êtes un brillant politicien, moderne, fin stratège et bosseur redoutable, autant les votes, les élections, tout ça, c'est moins votre fort. Mais revenons à vos débuts. Je repasse à la troisième personne, ça sera mieux, vous allez voir. Ça va mettre un peu de distance entre vous et vous-même. Manuel Valls naît à Barcelone le 13 août 1962. Il grandit à Paris, dans le quartier du Marais, au sein d'une famille pas pauvre, mais pas riche non plus. Et il lit beaucoup. Ça va jusqu'ici, j'ai tout bon ?
Oui, ça va.
Ça va, tant mieux. Non, parce que dans un portrait, il faut toujours se méfier du chapitre jeunesse. Dans les infos qu'on trouve, il n'y a pas que du vrai. Non mais c'est vrai, par exemple, j'ai lu qu'en CM1, à l'élection des délégués de classe, vous avez obtenu que 5,6% des voix. C'était faux.
Non, j'ai toujours été délégué de classe. C'est là où j'ai enfin eu cette ambition.
Ça a commencé là.
Ça a commencé à l'école.
Voilà, une info, vous voyez Stéphane. C'est bien ce que je me disais. Je continue donc.
La chef commence à l'école.
Donc je continue à la troisième personne. Manuel Valls s'engage à 17 ans chez les jeunes socialistes. Obtient la nationalité française en 82 et en 86, à seulement 24 ans, il devient conseiller régional d'Île-de-France. Respect. Non, parce que moi, à 24 ans, je ratais mon permis pour la troisième fois. De 1988 à 1991, il est chargé de mission au cabinet du Premier ministre Michel Rocard, puis de 1997 à 2002, conseiller pour la communication du Premier ministre Lionel Jospin. Bref, il est déjà dans la place.
Je suis dans la place.
Manuel Valls mène également une carrière d'élu local, en devenant maire d'Évry en 2001, puis député de l'Essonne en 2002. Ah, Évry, sa cathédrale contemporaine en forme de bite d'amarrage géante, son bois sauvage, ses épinettes, ses pyramides, du haut desquelles 40 siècles d'emmerde vous contemplent. En 2011, il se présente à la primaire socialiste, mais se classe seulement 5e au premier tour, avec 5,6% des voix. Mais non, là cette fois c'est pas du tout une fake news. Mais c'est pas grave, car il appelle à voter François Hollande, la suite on la connaît. Hollande gagne les présidentielles de 2012. À Tulle, c'est la grosse folie.
Non.
Si, c'est un document d'époque, je vous assure.
Non.
Si, si, si. Ah bah, apparemment, l'accordéoniste, lui, il est allé à la buvette. Devenu président normal, mais président quand même, Hollande nomme Manuel Valls ministre de l'Intérieur en mai 2012. Puis Premier ministre le 31 mars 2014, à seulement 51 ans. Respect encore. Non, parce que moi, à 51 ans, je perdais mon permis pour la troisième fois. Bon, à ce moment-là, Manuel Valls, j'imagine que vous dites « Je fais Premier ministre pendant un ou deux ans, pépouze, et ensuite je serai président. » Est-ce que c'était ça, le projet ?
Pas tout à fait, enfin, on peut l'imaginer.
On aurait pu. Eh ben ouais, mais non. Parce qu'en 2014, ce sont d'abord les frondeurs du PS qui viennent gâcher votre projet. Puis en 2015, Stéphane l'a dit, un level au-dessus quand même, les islamistes. Attentats, état d'urgence, légionnaires vigipirates qui patrouillent en kangou dans les rues. Bref, bye bye la pépousité. Malgré ça, vous tenez 2 ans et demi au poste de Premier ministre. Bravo. Avant de démissionner et déclarer votre candidature à l'élection présidentielle de 2017. Je repasse à la troisième personne pour mettre de la distance. Lors de la primaire du PS, Manuel Valls s'est battu par Benoît Hamon. Puis il quitte le PS pour rejoindre La République En Marche, inventant au passage un nouveau concept. Je ne sais pas si vous êtes gender fluide, mais vous êtes politique fluide. Hein. Pas de barrière, vous oscillez entre différents courants. Mais quand même, se faire battre par Benoît Hamon, c'est dur. Hein. Vous rêviez de Marseillaise, et finalement l'ambiance musicale c'est plutôt...
Elle est comme pour Manu, ça sert à rien la haine.
La suite on la connaît, c'est la campagne en Espagne où le prénom Manuel résonne beaucoup mieux.
Ah, je l'attendais.
Alors Alors cette campagne barcelonaise, c'est vrai, d'un point de vue professionnel, c'est pas une totale réussite, mais d'un point de vue sentimental, c'est grâce à sa nouvelle vie en Espagne que Manuel Valls rencontre sa future épouse, la troisième. Oui, car des épouses, ce matador de l'amour en a déjà eu deux avant. Alors qu'il zone à Minorque au Baléares, il croise en soirée une femme et il se dit « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Pourquoi ?»
And I think to myself, why now ? Why me ? Why ? Susanna, Susanna.
Ah, c'est bien trouvé.
Vous rencontrez Susanna Gallardo Torrededia, héritière des labos pharmaceutiques Almiral, et c'est le grand amour puisque vous vous mariez le 14 septembre 2019. Bon là, j'avais écrit quelques boutades un peu gratuites sur le fait que votre femme était super riche, tout ça. Mais votre chauffeur, hein, qui vient d'arriver dans le couloir et ressemble quand même beaucoup à Teddy Riner, me fait signe d'enchaîner. Donc je ne vais pas les lire. Et comme Teddy vient de me faire un sourire un peu inquiétant, je ne vais pas non plus parler de votre départ de Barcelone, ni du clip satirique qui a été réalisé à ce sujet, ni de votre défaite aux législatives de 2022, pardon, ni de votre départ de Twitter. Je conclurai simplement ainsi. Manuel Valls, vous êtes parti faire campagne en Espagne et vous y avez trouvé compagne. Et ça, c'est bien plus important que tout le reste.
Avoir de cœur pour faire un seul bonheur. Oh là là là. Mais c'est magnifique.
Merci beaucoup Jean-Luc.
Merci à vous.
Merci.
Bon.
Belle conclusion, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais vous savez, dans la vie politique, il y a des réussites, il y en a eu beaucoup. Et il y a forcément des échecs électoraux politiques. Mais moi, je devais partir à Barcelone parce que si je restais en France, si je restais dans l'ambiance politique qui était celle de ce moment-là, je me brisais. Ce n'est pas ce que je serais devenu sur le plan personnel. Donc c'était une nécessité, c'est une belle expérience d'ailleurs de faire campagne dans un autre pays, même si c'est un pays voisin européen où je suis né. Mais le plus important, c'est que j'ai connu l'apaisement et que j'ai connu Susanna. Et au fond... On demande aux politiques de réussir, de gagner toutes les élections, et ensuite, s'ils sont battus, de disparaître. Non, on a d'autres manières de s'adresser aux Français, en écrivant, en nous exprimant, en prenant le recul nécessaire. On trouve quelques exemples d'ailleurs dans ce livre que je publie, mais c'est vrai que l'amour, c'est le plus important au fond.
On est bien d'accord.
Merci en tout cas, merci Manuel Valls d'avoir été notre invité spécial cet après-midi. C'est un plaisir, je rappelle votre livre « Le courage guider leurs pas ». 12 destins face à l'histoire qui réunit de nombreux grands noms de l'histoire. Il paraît aujourd'hui même aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont partis faire campagne en Espagne pour retrouver deux garçons de la ville, l'un venu de Belgique, l'autre du Portugal. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines de la découverte des dinosaures.
Exactement, hein, ces créatures que, avant on trouvait des os, c'était quoi, on savait pas. Enfin, on a fini par savoir.
J'ai l'impression que vous êtes bourré quand même. C'est très bizarre.
Si possible, un petit peu peut-être.
Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. Alors, ça s'est passé dans le passé. On remonte au 18e siècle pour découvrir, Olivier, ce qu'il y avait dans les cales des pirates.
Bah, dans l'histoire, s'il y a bien, je crois, un repas que je n'aurais pas aimé partager, c'est bien celui des pirates. En effet, la plupart du temps, les pirates crevaient de faim ou se nourrissaient de manière, comme on dirait aujourd'hui, peu équilibrée. Les longues virées en mer posaient d'énormes problèmes de logistique et de conservation des aliments. On ne mangeait donc pratiquement rien de frais.
Qu'est-ce qu'il y avait à table, je veux dire au menu, enfin, si on peut parler de menu?
La base de l'alimentation, en fait, était composée de petits gâteaux secs réalisés à base de farine et d'eau, c'est tout. Leur avantage, c'est qu'ils se conservaient très longtemps, plusieurs mois. Inconvénient, après quelques semaines de mer, ils étaient pleins de verre et durs comme du bois. Donc il
n'est pas inventé des boîtes en fer blanc.
Pas trop, non.
Donc, non, parce que ça se garde très bien dans des boîtes
vrai.
En fer blanc.
Oui, on n'y pense pas. Enfin, il n'y avait pas pensé, en tout cas. Donc, il fallait les tremper dans un liquide pour pouvoir les manger, d'autant que vous imaginez bien que la dentition de nos flibustiers était loin du sourire ultra bright. Figurez-vous que pour éviter d'être dégoûté par les asticots qui avaient colonisé les gâteaux, les pirates les mangeaient dans le noir. C'est véridique.
Tu as dit, les asticots, c'était un peu des protéines.
C'était des protéines, mais côté viande, ils emportaient avec eux des morceaux de cochon qu'ils salaient et laissaient sécher sur les ponts du navire afin de pouvoir les conserver. Mais malheureusement, ils ne maîtrisaient pas très bien la technique. En plus, le climat était humide et la viande, elle avait souvent tendance à pourrir. Alors, le repas type de ces hommes de la mer se compose d'un morceau de viande de porc bouilli longuement dans de l'eau, souvent de mer, de mil, c'est une céréale qui est elle aussi est cuite dans de l'eau de mer et dans du gras de cochon, et puis avec en dessert un biscuit sec au vert. Bon appétit.
Et côté boisson,
ben, c'est pas beaucoup mieux. Souvent de l'eau croupie hein, qui traîne dans des tonneaux. Alors ils sont parfois contraints de boire de l'eau de mer, voire leurs urines.
Non.
Ah, si. Alors au mieux du rhum. Hein, l'huile a l'avantage de ne pas être infestée de maladies. Donc mieux valait consommer cet alcool que de l'eau. On faisait tourner une bouteille et chaque homme avait le droit de boire deux rasades. Ils étaient rationnés. Le capitaine savait que des hommes mal nourris sont susceptibles de se mutiner facilement. Et donc il y avait une série de règles qui sont instaurées à bord et qui sont très strictes, comme un tirage au sort pour s'attribuer les morceaux de pain lorsqu'il y en a. Le plus souvent, vous l'avez compris, c'est la famine qui règne à bord. On raconte même l'histoire d'un bateau dans la mer des Caraïbes et qui, durant des semaines, n'avait pas croisé la route d'un autre navire pour s'approvisionner. Les hommes ont fini par manger leurs chaussures, les cordages, des crottes de rats, jusqu'à ce qu'ils parviennent à attraper un requin qui leur sauva la vie.
Oui, parce qu'il y a tout de même, je sais pas, il peut y avoir un commis aux cuisines qui pêche pendant ce temps, et puis il y avait des escales aussi.
Oui, alors ils attrapent volontiers des tortues de mer, et lorsqu'ils mouillent dans les îles, ils attrapent alors là carrément tout ce qu'ils peuvent, des caïmans, des lézards, des iguanes, des oiseaux. Le plat le plus célèbre des pirates, c'est le salmigondi, une improbable préparation à base de viande de tortille, de bœuf, de poulet, de canard, le tout mariné dans du vin avec des épices. On ajoute ensuite du chou, des anchois, des fruits, des œufs, de l'ail. Je vous donnerai la recette détaillée sur le site si ça vous amuse.
Il y a tout en fait, de la chantilly, tout ce qui traîne.
Personnellement, je ne l'ai pas essayé. Ça me tente assez moyen. Alors les flibustiers français étaient, eux, connus pour se régaler d'os à moelle. Mais attention, il est dégusté encore tiède, juste après avoir tué la vache. Un rituel qui avait d'ailleurs le don de dégoûter les pirates anglais, plus raffinés probablement. Bon, la piraterie va décliner puis disparaître au début du XVIIIe siècle. Quant à la nourriture à bord des bateaux, il faudra encore attendre quelques décennies avant qu'elle ne devienne vraiment acceptable.
Ah, mes aïeux, quelle époque! Merci beaucoup, Olivier. Olivier, on vous retrouve samedi dès 11h dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Europe 1. Et vous recevez cette semaine Daniel Auteuil.
Ah oui, et ça me met en joie d'ailleurs.
Ah oui, ça je comprends.
Un bon gastronome, paraît-il.
Oui, absolument.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et surtout avec vous, David Castel-Lopez, et sa découverte des dinosaures. Enfin, je dis ça... Vous n'y êtes vraiment pas pour grand-chose dans cette histoire, n'est-ce pas,
ouais,
David ?
Non, vraiment très peu. Un rôle vraiment accessoire, on peut dire, dans la découverte des dinosaures. Depuis la nuit de l'humanité, les gens, ils ont trouvé dans le sol, sans doute, des os qui ne correspondaient à aucune espèce qu'ils connaissaient. Vous vous rendez compte de ce que ça devait être ? Vous sortez du sol une mâchoire grande comme Stéphane Bern. Oui. Vous dites quoi ? Eh ben, vous dites que cette créature, elle existe, mais que vous l'avez jamais vue, mais que c'est qu'une question de temps. Vous finirez bien par la croiser
le plus tard possible.
Il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que ce sont ces os qu'on a trouvés dans le sol qui ont inspiré aux peuples de l'Antiquité leur monde peuplé de géants, de monstres ou, pour le cas de la Chine, de dragons. Au XVIIe siècle encore, en Angleterre, il y a un biologiste anglais qui s'appelait Robert Plot qui ne comprenait pas d'où pouvait venir un énorme os qu'on lui avait rapporté. Il s'est dit, ça doit être un morceau de fémur géant. Cet os, on en a un dessin que je vais vous montrer, Stéphane, que vous pouvez peut-être nous décrire à quoi cet os vous fait-il
penser. On dirait un tronc
penser.
D'arbre.
Oui.
D'où l'aubergine.
Oui.
Oui, parce que le bas, c'est deux...
Vous avez l'esprit
pur. Une pelle de aubergine.
Voilà.
Alors, scrotum.
Voilà. Vous avez l'esprit très pur, Stéphane. Vous, un petit peu.
Oui, parce qu'il manque le membre.
Il manque le membre, mais on est d'accord que ça ressemble. On dirait deux bourses. En fait, deux bourses. Et justement, presque un siècle plus tard, un autre scientifique anglais qui s'appelait Richard Brooks a mis un dessin de cet os dans une de ses publications et il a appelé ça un scrotum humanum, c'est-à-dire des testicules humaine. Alors, des testicules d'un géant
en
humain.
Bois.
Ah non, c'était
En os.
Fossilisé, si vous voulez. Oui. Ils disaient, oh, ça doit être, si vous voulez, de grosses couilles pétrifiées. Voilà, si on peut dans le truc.
Oui, bon,
et quand je dis grosses, 70 cm de circonférence.
Ah oui,
voyez.
Quand même.
Ah non, massif. Oui. Mais ils disaient que ça devait appartenir à un géant qui avait donc ces choses-là pétrifiées. Mais, bien sûr, M. Brox avait tort, c'est Robert Plot qui avait raison. D'ailleurs, si je vous le mets dans l'autre sens, vous voyez bien que ça ressemble
à une toque de chef.
À une toque de chef ou à une tête de fémur. Cet os, c'était un morceau de fémur. Et on s'est rendu compte quelques années plus tard, à la faveur de la découverte d'un certain nombre d'autres os, que c'était le fémur d'une créature qu'on ne connaissait pas. Et qu'on a appelé à ce moment-là le mégalosaure, ça veut dire, ce qui veut dire le gros lézard. Mais ça a failli, si vous voulez, s'appeler ce premier dinosaure, il a failli s'appeler un scrotum. Voilà, ce qui aurait été quand même vachement moins classe. Au 19e siècle, on a découvert encore en Angleterre deux autres espèces de créatures du passé, l'iguanodon et le yellosaurus. Et là, il y a un monsieur anglais encore qui a déterminé que ces trois espèces, le mégalosaure, scrotum, l'iguanodon et le yellosaurus, ils appartenaient à une même famille d'animaux disparus, famille à laquelle il a donné le nom de dinosauria, qu'on peut traduire par lézard terriblement grand. Alors pourquoi la totalité des gens dont je viens de vous parler sont anglais ? Pourquoi ?
Parce que c'est en Angleterre qu'on a d'abord trouvé tous ces os.
Mais pourquoi ? Et pourquoi ?
Parce que c'est là qu'ils étaient le mieux conservés dans la Terre.
Alors, non, pas tout à fait.
Parce que c'est là qu'on les a cherchés.
Mais pourquoi en Angleterre à ce moment-là ? Effectivement, on ne les a pas vraiment cherchés, on les a trouvés. Et bien parce qu'à ce moment-là, en Angleterre, c'est la révolution industrielle.
On fait des trous.
Or, pour alimenter la révolution industrielle, il faut du charbon. Et le charbon, on le trouve où ? Eh bien en creusant, en creusant, en creusant. Et c'est pour ça, et c'est entre autres, disons, pour ça, que c'est là qu'on a trouvé plein d'eau et qu'on a découvert les dinosaures. Mais il faut noter quand même que tout ça, ça n'aurait pas été possible sans un monsieur français qui lui s'appelle Georges Cuvier. Vous connaissez Cuvier ?
Ah oui.
Cuvier, c'était un génie à peine moins génial que Darwin. C'est lui qui a compris que les os chelous qui sortaient du sol, ils appartenaient à des espèces éteintes qui avaient vécu il y a super longtemps et pas à des animaux qu'on était susceptibles de croiser au coin de la rue. Et parenthèse, il a compris ça en regardant des dents d'éléphants fossilisées bizarres, des dents qui avaient une forme de sein. Et vous savez comment on dit sein en grec ? Mastos. Ah. Et donc Cuvier, l'éléphant chelou dont il observait les dents, il appelait ça un mastodonte, un éléphant qui a les dents en forme de sein. Excusez-moi, mais là on est quand même sur une grosse mitraillette de fun fact, une fois de plus. Mais l'explosion du hype des dinosaures qui a commencé à ce moment-là, elle s'est faite surtout à la fin du 19e siècle, non pas en Europe, mais aux États-Unis.
Jurassic Park.
Où il y avait, un petit peu avant ça, aux États-Unis, où il y avait deux savants qui se sont mis sur la gueule pendant 25 ans pour savoir qui était le meilleur paléontologue. Ces deux messieurs, ils s'appelaient Othoniel Marsh et Edward Cope. Et leur rivalité a été tellement célèbre qu'on lui a trouvé un nom. On l'a appelé la ruée vers l'os. Chacun avec leur équipe, ils partaient dans l'ouest des États-Unis et c'est à qui découvrait le premier une nouvelle espèce de dinosaure. Et pour ça, tous les coups étaient permis. Ils utilisaient de la dynamite pour trouver des fossiles.
Ah non. Hein,
ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Hein, c'est plus une méthode acceptée par
surtout
les paléontologues.
Ça casse un peu le squelette, voilà, si on trouve.
Principalement même. Ils faisaient détruire des os qu'ils trouvaient juste pour pas que l'autre, leur rival, trouve. Mette la main dessus. Ils sont tellement haïs, ils ont fini tous les deux ruinés à force de se tirer dans les pattes à coups de campagne de presse croisée. Mais on peut dire que cette rivalité elle a quand même été fructueuse puisque à eux deux, ils ont découvert une centaine d'espèces de dinosaures. Alors dans leur sillage, les dinosaures, c'est devenu un truc complètement grand public. Et depuis quelques dizaines d'années, on peut même dire qu'ils sont super à la mode, les dinosaures. Peut-être parce qu'on a confirmé l'hypothèse qu'ils étaient morts à cause d'une grosse météorite dans leur visage et que le changement climatique, ça ressemble un petit peu à une grosse météorite dans notre visage.
Merci beaucoup, David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont fait un nouveau western.
Moderne.
Oui, moderne. Edwin S. Porter, premier cinéaste de l'histoire, qui a réalisé un western muet mais terriblement parlant. Sergio Leone, qui a donné un second souffle au western, un souffle venu d'Italie avec ses western spaghetti. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez celui qui l'a chanté, le western moderne.
Oui, on vient d'entendre comme ça, furtivement. Le rappeur MC Solar avec ses mots, son style, son flow, que je vous raconte demain en Alexandre.
C'est vrai ?
Non.
Ah oui, je me disais aussi.
Ça, il s'est chauffé là.
À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.